Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast du blog Nintendo Sphere. Donc là je suis avec une bonne partie de la rédaction du blog. Et aujourd'hui, pour ce premier podcast, on va parler évidemment de la Nintendo Switch. Parce que c'est un peu l'actualité en ce moment. Donc comment ça va se passer? Je vais faire un petit sommaire rapide. On va commencer par un petit débat, d'abord, sur un peu le décalage qu'on voit entre les retours de la presse et le succès, hein, finalement, qu'a la Switch parmi le public. On enchaînera avec un petit dossier sur le prix de la Switch, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va vous expliquer quelques trucs. Ensuite, on vous parlera un peu de tout ce qu'on entend de pire sur la Switch. On fera une petite désintox sur les meilleures phrases. Puis on enchaînera avec un nouveau débat, cette fois un peu plus chaud, je pense, sur le online de la Switch. Et puis on finira par les attentes un peu de chacun au niveau des jeux de la console. Alors nous, on a constaté une chose étrange, c'est que la Switch, dès la conférence de présentation, il y a eu des retours assez mitigés de la part de toute la presse. Tout le monde est loin d'être unanime sur les futures performances de la console, donc elle est critiquée sur pas mal de points. Mais d'un autre côté, on sent quand même un engouement de la part du public, parce que notamment la console explose les records de précommande. On a vu qu'elle était déjà en rupture de stock aux États-Unis par exemple. Donc on va voir un peu pourquoi. On va commencer par qu'est-ce qui exactement a pu inquiéter autant la presse lors de l'annonce de cette console et lors de sa présentation, parce qu'on a tous pu la tester évidemment. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Rach, toi qui es notre rédacteur en chef, t'es près du sujet, donc vas-y.
Donc oui, c'était un peu surprenant, d'autant qu'on est allé tester la Switch directement au Grand Palais à l'événement le week-end début janvier. T'es levé à 5h exprès, bien sûr, évidemment, pour suivre tout ce que nous a dit Nintendo à ce moment-là. C'était super enthousiasmant pour nous.
Et on s'est pas trompé de jour.
On s'est pas trompé de jour comme certains dans la rédaction qui se sont levés le 12 janvier.
On va pas citer le nom,
mais on a bien rigolé. Du coup, oui, on était un peu surpris parce que nous, on a testé la console, on était agréablement surpris, elle nous a plu, la prise en main était bonne, les jeux nous ont plu également.
Alors pour ça, on va pas revenir sur nos...
Mais c'est juste, voilà, c'est juste qu'après, dès le soir même, on commençait à lire les retours dans la presse et c'était plutôt négatif.
Mais alors pourquoi la presse, justement, a eu cette impression négative, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Justement, Caduceus, donc toi qui étais proche, voilà, tu as eu beaucoup de contacts avec la presse ce jour-là,
Parce qu'il faut préciser que Caduceus, il staffait au Grand Palais pour Nintendo, donc il a pu vraiment voir la réaction de journalistes en live, et également...
Il a eu la journée pour ça.
Voilà.
Pour toi, qu'est-ce qui explique donc, ce ressenti négatif?
Alors ça peut venir de plusieurs points, c'est-à-dire que je pense que les attentes étaient irréalistes de la part de la presse, enfin du monde du jeu vidéo en général, sur ce qu'attendait la console, parce qu'on savait depuis novembre que ce serait une console hybride, à la fois portable, à la fois de salon. Il y a eu des surprises sur les Joy-Con, qui étaient vraiment la chose qu'ils n'avaient pas développée avant, mais du coup tout le monde avait l'air de s'attendre à quelque chose qui aurait toute la puissance et les fonctionnalités d'une console de salon, et en même temps toute l'ergonomie et le côté pratique d'une console portable pour le prix d'une console portable.
Oui, donc s'attendait vraiment à l'objet parfait, quoi.
Moi je veux bien vivre dans le monde des bisounours, mais on peut pas tout avoir non plus.
Donc plutôt une attente qui était trop élevée par rapport à la réalité,
c'est
enfin, une attente irréaliste.
De part de ça, tous ces mois, on en a beaucoup parlé entre nous et on l'a vu sur des articles de blog, dont Camus qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On a écrit un très bon sur le brassage médiatique autour de la NX à l'époque, où ça s'appelait pas encore la Switch. Comme quoi, ça se montait la tête tout seul. Ça disait oui, ça fera ci, ça fera ça, on pourra avoir ceci, cela, alors que Nintendo avait absolument rien dit. Et au bout d'un moment, une fois que t'as l'annonce, tu ne peux pas avoir tout ce qui a été imaginé et fantasmé par la presse et les joueurs, et forcément, quand tu tombes de haut, alors que si tu t'étais toi-même fait un piédestal, un truc de ouf,
d'accord.
En te disant, oui, ce sera aussi puissant qu'une PS4 Pro, tout en ayant l'autonomie d'une 3DS, ce qui d'ailleurs est plutôt le cas, ça a à peu près l'autonomie d'une 3DS, c'est pas simple. Tout en étant, comme chaque console Nintendo, à 250€.
Tu soulèves un nouveau point, il y a peut-être le prix aussi qui aurait un peu surpris la presse.
On pourrait dire le prix, mais je pense que c'est pas... Oui, ça peut être ça ne touche pas directement, on va dire, parce que c'est non. pas non plus les journalistes qui achètent vraiment les consoles. Mais vas-y, Cyrus.
Alors, Cyrus, donc, on va te présenter un peu avant que tu prennes la parole. Donc,
d'ailleurs,
Cyrus,
on a oublié de présenter notre chef de cérémonie qui est Chetan.
Pardon, effectivement. J'étais un peu trop enthousiaste.
Qui est le président de la Nintendo League, voilà, duquel part le blog Nintendo Star que l'on a créé. C'est un gros rédacteur sur le blog, exactement.
Donc Cyrus, qui est notre spécialiste des articles très longs.
Des articles en plume.
Voilà.
Ouais, alors moi, en ce qui concerne en fait la presse que moi je suis sur l'actualité des jeux vidéo, en fait je passe plus de temps sur des sites américains que sur des sites français ou que sur des sites européens. Et je me rends compte qu'au niveau du prix, et c'est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas si je trouve que en fait c'est plus mitigé. Il y a vraiment des organes de presse qui s'attendaient pas à voir leur vie changer par l'annonce de la Switch, et du coup ils ont dit ok, il y a des bonnes choses à en retirer, il y a des trucs qui sont pas des très bonnes surprises, mais globalement voilà, on est un petit peu excité, on aimerait bien la voir cette console, on a hâte qu'elle sorte. Mm-hmm. D'autres qui se sont fait vraiment des films comme le public européen, et dans ce cas-là, bah oui, ils sont tombés du ciel au moment où ils ont vu la conférence de presse. Mais en tout cas, au niveau du prix, il y a eu la fameuse barrière psychologique des 300. Comme aux États-Unis, le prix il est de 299$. Oui. En fait, cet aspect-là est pas beaucoup ressorti. Bon, y a toujours des gens qui trouvent toujours tout trop cher,
forcément.
Qui voudraient que tout soit gratuit, mais il y a pas mal de gens qui espéraient ou s'attendaient un petit peu des deux à un prix plutôt dans les 250$. Bon, il y avait des inconscients qui s'attendaient à 200$, mais
Ouais, on a même vu 150$ traîner un moment.
Oui, je pense que il faut savoir proportion garder à un moment. C'est une nouvelle console, hein, qu'elle soit portable ou pas, ça change rien. Oui. Mais voilà, la plupart des gens avant même la conférence s'accordaient sur le fait que tant que c'était en dessous de 300$, c'était pas excessif. Et donc ce prix-là les a pas dérangés. Par contre, en ce qui concerne les accessoires, c'était une autre histoire.
Donc ça, c'est l'avis de la presse. Au niveau, tu as quelque chose à dire
ajouter, parce qu'il n'y avait pas que ce côté-là qu'on a entendu négatif dans la presse. Il y avait le côté, performance technique de la console, comme quoi on a entendu dire que c'était pas beau, que c'était ça avait pas l'air d'être mieux qu'une Wii U, que c'était honteux pour. On entend des choses comme ça, hein, aussi fort que ça, honteux pour 2017. C'est de la qualité d'une console portable de 2012, pour pas la citer, la Vita, et ceci et cela, et ainsi que les Joy-Con, le motion gaming, c'est dépassé. Maintenant c'est obsolète, faut oublier ça. Visiblement, ils n'ont pas testé ARMS, ces gens-là.
Oui.
Mais.
Oui.
Si, moi j'ai du coup, excuse-moi de te couper.
Vargas, on va te représenter quand même. Voilà. Donc, tu veux prendre Alors tu es donc pas très actif sur le blog de Nintendo Sphere, mais tu es là toujours pour nous accompagner dans nos plus grandes aventures.
Et Vargas a quelque chose à dire.
Je suis une sorte de mascotte. Ouais. Non, moi je disais ça. En fait,
tu dois me contredire.
En fait, je vais pas te contredire, mais je vais plutôt me mettre du côté de ces critiques-là. Justement, j'ai testé ARMS moi-même, effectivement, comme nous tous. Vu à quel point la technologie était efficace et très bien faite et qui reconnaissait très bien les mouvements et compagnie, par contre, ça m'empêche pas d'être quand même d'accord avec eux. Le motion gaming, déjà que j'aimais pas ça à l'époque de la Wii, aujourd'hui, déjà j'aime toujours pas ça et je pense que c'est un petit peu dépassé. À l'époque de la Wii, ça a fait le buzz et tout le monde en faisait, mais au fur et à mesure, ça a tendance à disparaître plus qu'autre chose.
Alors là, je vais te couper et je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'en ce moment, ce qui fait un peu le buzz, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on y joue comment ? On y joue avec des espèces de machins de motion gaming, tout ça, parce que c'est plus immersif. Donc, c'est pas en train de disparaître, c'est en train de revenir.
C'est vrai qu'il y a une deuxième vie un peu là sur le motion gaming.
Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Maintenant,
je ne pense pas du tout que Nintendo se dirige vers.
On pourrait lancer un autre débat là-dessus.
Après, je pense que Vargas vraiment fait référence, par exemple, à Wii Box de l'époque. Là, on revient sur un système similaire. Qu'il n'avait pas forcément envie de retrouver.
Et après, puis là, il y aura peut-être des nouvelles. Pas le casque VR, hein, de toute façon.
Et c'est ça. Après, il y aura peut-être des nouvelles applications avec ce motion gaming qui est bien plus précis que celui de la Wii, mais ça reste à voir. On va voir ce que Nintendo va faire avec.
Et puis surtout, pour l'instant, on a deux jeux présentés qui utilisent ces fonctionnalités, mais ça fait partie des choses mises en avant techniquement sur la console, donc à voir comment les Nintendo et les développeurs vont s'en servir. Non, on va peut-être enchaîner. Donc sur la, là, on a vu un peu ce qui a pu ce qui a pu déranger la presse. Maintenant, on voit aussi que les gens ont envie de l'acheter, cette console. Parce que les précommandes se portent vraiment plutôt bien. On parle de 80% du stock au Japon. Aux États-Unis, c'est en rupture depuis un moment. En Europe, on ne sait pas trop, mais apparemment... Dante, exprime-toi.
Donc déjà, Dante, on va te présenter. C'est aussi un rédacteur principaux, on va dire, avec Chetan et moi. Sur le site, voilà, on est les trois plus actifs, en tout cas en termes de quantité d'articles. Et voilà, on va le laisser s'exprimer un petit peu, le petit Dante.
Alors, au niveau des précommandes, je ne vais pas parler au niveau européen, mais simplement au niveau français. Quand on a été au Grand Palais donc pour tester la console, j'ai pu parler en fait avec des gens de Nintendo France qui m'ont dit que sur la journée même en fait, où la console a été présentée, ils ne s'attendaient absolument pas à un tel engouement au niveau en fait, des précommandes. Surtout par rapport à Amazon, ils ont eu des retours super bons, alors que le prix était quand même plus élevé que ce qu'on a actuellement. Donc ça prouve que la console marche même chez nous. Après, je pense qu'on aura... faudra voir au niveau des stocks ce qu'on nous propose en Europe. Je sais qu'au niveau mondial, c'est 2 millions. Mais c'est bien parti pour le moment. Ça a l'air de bien se vendre. En tout cas, les gens de Nintendo m'ont dit que ça partait pas mal pour eux et qu'ils étaient assez contents des retours.
Sur la France, on a entendu des chiffres de 100 000 consoles.
En stock.
En stock, oui.
Oui, c'est 70 000 grises 60... et 30 000 néons.
Voilà, 100 000.
D'accord. Donc c'est plutôt une... un contraste par rapport au retour de la presse. Comme quoi, vaut mieux se faire son propre avis que d'écouter ce qu'on nous dit.
Après, c'est des nombres d'unités qui sont pas non plus énormes.
C'est-à-dire
que, on sait que c'est en rupture aux États-Unis, on sait pas vraiment combien il y a d'unités là-bas, mais...
Exactement.
C'est un pays peuplé, quand même.
Mais c'est plutôt un bon signe. Les gens ont envie de la console. Après, on verra si dans l'avenir, ça se concrétisera. En parlant d'avenir, on va passer à la partie suivante, qui est le dossier sur le prix de la Switch. Donc on revient donc sur une des polémiques les plus virulentes à propos de la Switch, qui est son prix, surtout en Europe en tout cas. Donc le prix qui était au début autour de 330 euros. Donc si Cadusus, tu vas nous en parler justement de l'historique de ce prix, qui est assez particulier.
Exactement, 2 semaines et on peut déjà en tracer un historique. Du coup, sans prix de la Switch, c'est quand même assez inédit parce que on a eu donc le cas particulier de l'Europe, c'est que le prix n'a pas été annoncé par Nintendo. Et du coup, on assiste ici depuis la conférence à une sorte de guerre froide entre tous les revendeurs. En commençant donc par Amazon, qui a tout de suite après la conférence annoncé la console à 350 euros. Ce qui a surpris tout le monde, vu qu'on s'attendait à 300 euros. Au vu du prix américain qui est de 300 dollars. On parlera pas des taxes, mais bon, passons. Puis, dans la matinée, ça s'est corrigé, c'est passé à 330. Micromania aussi a annoncé 330 euros et tout le monde s'est rapidement positionné à 330. On s'est dit jusque-là, le prix allait rester définitivement à 330, donc ça a râlé, ça a gueulé, à dire oui, c'est inaccessible, on prend 30 euros dans la gueule par rapport aux Américains, et encore plus par rapport aux Japonais. Et puis, depuis, c'est un peu un feuilleton quotidien, on voit alors Amazon qui a baissé à 325, puis la Fnac qui a suivi, pareil, 325, puis Leclerc, Cultura qui sont arrivés à 320. Sur ce, je crois que c'est encore une fois Leclerc.
Donc ça t'excite tous ces chiffres.
Ouais, hein. C'est Amazon de nouveau qui a ressurgi avec ses gros sabots, allez, 315, et maintenant taisez-vous, et là Fnac, ils ont mis ensuite une quenelle à tout le monde, en passant avant-hier, je crois, la
299.
Console à 200, voilà, la barre symbolique, enfin franchie, donc 299 euros, donc moins de 300, et sous peu, logiquement, tous les revendeurs vont s'aligner.
Amazon s'est déjà aligné, je crois.
Amazon s'est déjà aligné, tout le monde s'est aligné.
D'accord.
Voilà, donc il y a eu une guerre des prix qui est plutôt au final bénéfique pour nous, parce qu'on est arrivé à ces fameux 300 euros.
Tout à fait.
Qui sera le prix sous lequel on pourra obtenir la Nintendo Switch chez toutes les bonnes enseignes.
Et encore, t'as même pas parlé des chèques cadeaux offerts quand tu la prends, la Fnac.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat, mais voilà. Je l'ai dit comme ça.
Voilà. Alors pourquoi on a un tel flou en Europe au niveau du prix? Parce qu'on a vu que pendant la conférence, Nintendo a annoncé 299 $ pour les États-Unis, un prix en yens pour le Japon.
30 000 yens.
peu près.
30 000 yens,
bon d'accord.
C'était pendant la conférence, je peux pas...
D'accord, ouais, ok. Bah,
ça fait à peu près 240 euros de vinet comme ça.
9 995 yens, non, c'était pas ça.
Non. D'accord, donc il y a des prix bien clairs et définis. En Europe, on n'a pas eu de prix.
Alors pourquoi, mon cher Chetan?
Mais justement, je vais vous l'expliquer. on est dans l'Union Européenne, et l'Union Européenne impose certaines règles. Il y a une règle, un article de loi qui dit que les constructeurs, en tout cas les fabricants de produits, à part certaines, pas tous les produits, il y a des exceptions, on va pas rentrer dans les détails, mais les fabricants de produits n'ont pas le droit d'imposer le prix de vente aux revendeurs. C'est les revendeurs qui doivent fixer leur prix. Donc, ils ont pas le droit de fixer de prix minimum. Ils ont le droit de fixer un prix maximum.
Donc, général, c'est une raison légale.
Est-ce qu'ils peuvent donner un prix conseillé ou pas?
Ils n'ont pas le droit de fixer le prix. Après, effectivement, il y a certaines marques qui annoncent quand même des prix. Des marques qu'on ne citera pas, des concurrents, en utilisant des feintes plus ou moins qui sont légales, hein, mais en mettant par exemple une petite astérix avec prix généralement constaté. Donc des choses qui ne veulent rien dire, mais qui déchargent complètement l'établissement du prix au distributeur, ce qui est la loi. Donc Nintendo, eux, pour que ce soit plus simple, pour pas risquer quoi que ce soit, ne donne pas de prix. Il laisse les revendeurs fixer ce prix.
Mais est-ce que tu penses, selon toi, que c'est une bonne chose ou pas?
Alors,
on est là pour
parler du cadre de la législation
européenne. Je ne m'y connais pas assez en marché.
Parce que regarde la conférence PS4 de l'annonce, ils ont dit PS4, 400 euros.
Prix généralement constaté.
Oui, du coup, prix généralement constaté, tout le monde va s'aligner sur ce prix.
Après, voilà, Nintendo n'a pas à l'avance le prix que va se fixer non plus les distributeurs. Quand les distributeurs eux-mêmes ont fluctué entre 300 et 350 en l'espace de 2 semaines. Donc si Nintendo avait commencé à la conférence en annonçant prix généralement constaté, on sait pas trop parce qu'on n'a pas eu de retour d'Amazon et de Fnac, ils auraient rien pu dire.
Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le consommateur, hein, franchement. Parce que, au moins, comme justement par concurrence, ils finissent par s'aligner tous sur un prix qui convient à peu près à chaque distributeur, mais... Comme ils ont dû baisser, ça fait que pour le consommateur, c'est plus bas. Alors que, imaginons que Nintendo ait dit dès le départ, elle sera à 330. On en serait toujours à 330 aujourd'hui.
Exactement. Ça n'aurait pas bougé, en effet.
D'ailleurs, en parlant des 330 euros, Cyrus, il y a eu pas mal de critiques sur ce prix, comme on l'a dit tout à l'heure. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le ressenti des gens sur ce prix trop élevé?
Je pense que, déjà, c'est un petit peu lié à, justement, les attentes dont on parlait un petit peu plus tôt, la perception aussi que les gens ont eue du système. Après, on ne peut pas les blâmer à 100% pour ça, parce que quand on le voit juste en vidéo, on ne se rend pas forcément compte de certains des aspects, notamment technologiques, qu'il y a dedans. Après, nous, on a eu la chance de l'avoir entre les mains, on a eu la chance de tester la puissance de ce que c'est que le HD Rumble, là. Et... Une fois qu'on l'a eu entre les mains, on se rend compte que c'est quand même un morceau de technologie très sophistiqué. Surtout pour Nintendo, parce que quand on regarde la Wii et la Wii U, et puis enfin, même plus loin dans le passé, la Game Boy et les Game & Watch, c'était des choses où ils appliquaient plutôt la fameuse philosophie de Gunpei Yokoi, où ils prenaient de la technologie qui est un petit peu... qui se fait un petit peu vieillissante, et puis ils essayent de la combiner astucieusement.
La renouveler un petit peu.
Voilà, pour faire... Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu, par le passé historiquement, des consoles pas trop trop chères chez Nintendo. Pas toutes, mais un certain nombre.
Je crois que leur credo, c'était l'innovation au service des technologies désuètes, quelque chose comme ça, non?
Oui, ou le pensée latérale autour de la technologie désuète. Quelque chose comme ça.
Donc là, pour la Switch, c'est un changement de philosophie.
Oui, il y a un revirement assez certain quand même quand on regarde surtout les Joy-Con. Hein. C'est vraiment c'est un Joy-Con, c'est quelque chose qui est à peine plus... En surface, c'est à peine plus grand qu'une carte de crédit. Et en épaisseur, ça fait quelques millimètres, ça se compte même pas en centimètres.
Ce que je retiens, c'est que tu aimes quand c'est puissant, que c'est épais et que ça vibre. Hein. moi, j'ai...
C'est quelque chose que j'apprécie. Ouais. Sentir des boules bouger sous mes doigts, c'est...
Ah, c'est une sensation unique.
Alors,
est-ce que les gens sont prêts à mettre le prix pour toi, du coup, avec tout ce que tu viens de
dire? Ouais, donc c'est ça. En conclusion, sur tout ce que je déblatérais, le souci, c'est ça. C'est que si on l'a en main, on se rend compte beaucoup mieux de l'ingénierie qu'il y a dedans. Il y a vraiment du travail qui a été fait pour faire un système compact et avancé, sophistiqué. Mais quand on le voit en vidéo, quand on regarde une conférence, c'est pas si évident. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que certaines personnes sont surprises en fait d'un tel prix pour un tel système.
On peut prendre l'exemple dans la conférence, quand ils ont présenté la vibration HD, ils ont montré un glaçon, enfin des glaçons dans un verre et on...
Ouais, mais je dois avouer que moi, quand je voyais Monsieur Koizumi faire ça avec le verre, je comprenais pas vraiment ce qu'ils étaient en train de nous vendre, en fait.
Tout le monde était sceptique.
Bon, après, il était 5h30 du matin aussi, mais...
Ouais. c'est quelque chose que, voilà, que tu peux pas... C'est difficile comme concept à expliquer, il faut vraiment tester pour s'en rendre.
Et quand on le teste, on est convaincu.
Parce que c'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Quand même.
Oui, et puis ça a un fort potentiel, hein. C'est quelque chose qu'on pourrait voir, si c'est utilisé de manière créative dans des jeux,
oui,
ça pourrait changer pour toujours la vibration dans les jeux.
Donc Vargas, est-ce que, pour une nouvelle console, 300 euros, on va arrondir à 300 euros du coup, est-ce que c'est vraiment si cher que ça, pour une nouvelle console ?
Alors, comme on l'a vu, c'est vrai qu'elle va forcément faire le jeu de la concurrence, puisqu'il y a les concurrents qui sont sortis depuis un petit moment, dont le prix a commencé à baisser, et qui sont à peu près maintenant au même prix. Donc effectivement, quand on va se retrouver en magasin, on va se dire « Ah, pour le même prix, je peux avoir la Switch ou alors une autre console qui aura plus de jeux, puisqu'elle est sortie depuis le plus longtemps. » C'est forcément une question qu'on va se poser. Maintenant, il n'y a pas les mêmes choses, et il n'y a pas les mêmes... C'est pas les mêmes concepts. Si tu veux jouer en mode portable ou en mode salon à ta console, il n'y a que avec la Switch que tu peux le faire. C'est pas avec les autres. Maintenant, il y a aussi le fait que voilà, il y a des jeux. Il y a Mario Kart 8 Deluxe qui va sortir sur Switch, qui est déjà sorti sur Wii U. Il y a Zelda qui va sortir sur les deux plateformes.
Alors justement, pourquoi acheter une Switch alors si c'est pour jouer juste à Zelda ? Alors, autant acheter une Wii U.
On pourrait se dire qu'acheter une Wii U avec Zelda, ça revient infiniment moins cher que sur la Wii U que sur la Switch.
Il paraît, j'ai entendu ça.
On pourrait se dire ça. Maintenant...
C'est une phrase qu'on a entendue quelque part. C'est pour ça qu'on l'évoque aujourd'hui.
Maintenant, moi je réponds... Non, parce que si on prend à armes égales, si j'ai envie de dire, non, c'est le même prix. Parce que si t'achètes une Wii U neuve, elle coûte 299, voire 350 euros. Et si t'achètes une Switch neuve, elle coûte 299 euros. Donc, c'est le même prix. Après, oui, si tu vas chercher une Wii U d'occasion, chez quelqu'un, machin, sur les sites de revendeurs et compagnie...
C'est autre chose,
t'as une console d'occasion et t'as une console qui est déjà finie où plus aucun jeu va sortir dessus. Alors qu'avec la Switch, t'as une console qui commence à vivre et qui donc avec déjà des jeux annoncés qui ne sont pas annoncés ailleurs. Donc maintenant, il faut pas juste voir est-ce que c'est plus cher ou moins cher, il faut voir est-ce que c'est rentable ou pas. C'est pas la même question. Et aussi, surtout, si t'achètes une console juste pour jouer à un jeu... Pose-toi la question, est-ce que t'as vraiment besoin d'acheter cette console ?
Exactement.
Voilà. C'est aussi une autre question à se poser.
Alors effectivement, sur Switch, pour l'instant, on n'a pas une vision à très 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 long terme. On a quand même une année assez chargée.
Rien que la première année, normalement... ça justifie, pour moi, l'achat de la console.
Voilà. Et on sait qu'elle va durer plus d'un an.
Oui, je pense.
Même la Wii U qui n'a pas très bien marché a duré 4 ans et il y a des jeux qui sont sortis pendant 4 ans dessus. Donc,
il y a quand même eu des beaux jeux sur Wii U, ça on peut pas dire le contraire.
Oui, c'est quelque chose auquel je pense quand je regarde les jeux qui ont été annoncés pour cette année 2017, là, s'ils arrivent à tenir l'échéancier, il y a quand même toujours ça qui est. Voilà. Mais mettons qu'ils y arrivent, en fait ça me fait penser à Splatoon. Quand Splatoon il est sorti, le sentiment assez général qu'il y avait parmi les joueurs et parmi les journalistes, c'est que au niveau du contenu, c'était limite. Il n'y avait pas beaucoup de cartes, il n'y avait pas beaucoup d'armes, il n'y avait pas beaucoup de modes non plus. Et puis en fait, Nintendo a testé sur Splatoon cette espèce de concept de la sortie échelonnée, où en fait, progressivement, du contenu s'est débloqué, s'est rajouté, et un an plus tard...
Sans frais supplémentaires.
Un an plus tard, Splatoon, c'était un jeu hyper complet. C'est un jeu qui m'a totalement satisfait.
Un contenu de malade.
Et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'appliquer ça à la console entière, en fait.
C'est vrai.
Et puis, ils posent des jalons quand même assez importants. Là, pour la sortie, on a un Zelda, ce qui est... gros truc.
Voilà, c'est pas rien. Voilà.
C'est pas rien.
Ça va occuper quelques semaines.
Voilà. un mois après, on a Mario Kart, même si c'est une réédition.
Il y a un Mario Kart.
On peut pas s'en plaindre, d'autant qu'il y a plein de gens qui n'ont pas acheté la Wii U.
Voilà,
et puis... C'est un Mario Kart génial, en soi, en termes de gameplay. C'est cool de pouvoir l'avoir sur Switch.
Et puis ça a toujours été vendeur, hein, Mario Kart. Donc là, après, l'été, hop, le gros jeu multijoueur, Splatoon 2.
T'as quand même oublié ARMS.
ARMS aussi, bon, oui, mais, non, mais je vais pas parler de tout, je parle des gros jalons, tu vois.
C'est un gros jalon, ARMS.
C'est une nouvelle licence.
Ça dépend, un...
ça dépend,
voit,
ça dépend des gens. Oui. Ça dépend des gens.
Faut voir. Oui, mais tu pourrais jouer au bouton, on sera content.
Mais t'es pas obligé.
Même pas. On va voir. C'est un autre débat. Ok, d'accord. Après, on sait que, à l'automne, on aura un Fire Emblem Warriors, qui devrait aussi, enfin, c'est un style de jeu qui est assez vendeur.
Ça devrait fonctionner.
Et puis après, voilà, la grosse cartouche à Noël, le Mario. On imagine qu'il y aura peut-être un pack avec la console. Enfin, et là, ça va...
A priori, le Mario, ça va être le carton de l'année.
Et a priori, quelque part dans l'année, Xenoblade Chronicles 2 aussi.
En plus, voilà.
Alors, s'ils y arrivent, c'est bon. Hein.
S'ils y arrivent, c'est
la grosse année. Hein.
C'est l'année parfaite. Voilà, c'est en fait, effectivement, tu vois, la Switch, il la sort en mars. Et là, tu peux te plaindre du « Ah, il manque des jeux dessus, il n'y a rien ». Ouais, mais justement, sortie échelonnée, et tu vas arriver en décembre avec une console qui va avoir plein de gros jeux dessus pour le mois de décembre. En fait, c'est du placement qu'ils sont en train de faire.
C'est clair.
Ils la sortent en mars, parce qu'elle est prête. Ils auraient très bien pu dire, bon, bah, on la sort en novembre. Et en novembre, elle serait sortie avec 10 jeux. Oui, et puis là, tu dois lâcher d'un coup 500 boules. Et voilà, et t'es content.
Alors, des jeux qui se seraient concurrencés, parce que si t'as Zelda et Mario qui sortent en même temps...
voilà, et ça, tu vois, c'est une logique que les gens ne se font pas.
Alors, petite rubrique désintox, parce que forcément, on a lu beaucoup d'articles de presse depuis 2 semaines, et on a lu beaucoup de bêtises, surtout.
Il est choqué, il est chaud, là.
De pépites.
Des pépites, et ça, on adore les pépites, parce qu'on peut les démonter facilement. Justement, j'ai lu, donc, quel était le site? Alors, ZDNet.
ZDNet, hein, pas, écoutez bien, ZDNet.
C'est un site spécialisé dans les nouvelles technologies.
On balance, dans cette...
Ah, on n'a pas peur. Si vous, ZDNet, si vous nous écoutez, vous pouvez unliker une
spécialiste
sphère directement.
Rendez-vous 17h République.
Alors, ZDNet mettait dans son article intitulé Nintendo Switch, déjà les baisses de prix. Donc, ça me va bien, puisque je parlais des baisses de prix tout à l'heure. Donc, blablabla, depuis 2 semaines, la console baisse de prix, je les cite. C'est premièrement, il disait que c'était sans doute lié au faible nombre de précommandes.
Ce qui est totalement faux, mais je l'ai prouvé.
C'est même l'inverse.
C'est plutôt les distributeurs qui eux-mêmes font la chasse aux acheteurs. Vraiment. Mais donc, une petite phrase qui a retenu mon attention, c'est difficile de penser que Nintendo n'a pas validé ses baisses successives de prix. Difficile de penser, mais justement...
Bravo, ZDNet, champion du monde.
Justement, quand on pense un petit peu, bah, au contraire,
déjà, de ne pas difficile penser. De penser. Déjà, c'est difficile, voilà, pour eux de penser. Ça, effectivement, ça se voit.
C'est évident que c'est Nintendo qui dicte les baisses de prix, mais tu l'as dit tout à l'heure.
C'est la loi.
Là, c'est
la
loi. Question légale.
On a expliqué tout à l'heure.
On précise, voilà, maintenant, Nintendo n'a pas son mot à dire. C'est les distributeurs qui eux-mêmes se font la guerre. C'est pas eux qui ont décidé de 1 qu'elle sera 330€ et qu'ensuite elle baisserait successivement jusqu'à 300.
Voilà, il faut se renseigner un minimum avant d'écrire des articles et se faire dire qu'on est de la presse.
Et qu'on est payé pour écrire ça.
Voilà.
On est quand même payé pour écrire ça. Voilà.
On ne tire pas sans sommation, en gros.
Donc on peut résumer quand même cette phrase par « C'est quand même difficile de croire que Nintendo ait pu respecter la loi ».
C'est
difficile,
impensable.
Donc voilà, bravo à la rédaction de ZDNet.
Voilà, et pour terminer là-dessus, j'ai une petite info. La marge que se faisait, a priori selon les infos qu'on a pu récolter, les distributeurs en vendant la console à 330€ étaient assez conséquents, deux fois plus, même largement deux fois plus, que la marge qu'ils peuvent se faire sur une PS4 ou sur une Xbox One. Donc il était logique de pouvoir rogner un petit peu sur cette marge de vente pour aller à 300, où je vous assure, ils font encore de la marge.
Oui, c'est ça, le fait de baisser à 300, c'est la preuve qu'ils se faisaient une énorme marge.
On a eu quelques chiffres, ils sont a priori...
Okay. Ça va. Alors ben moi je vais passer... Alors moi c'est pas vraiment... Désolé, hein, j'ai pas de site à balancer. Moi c'est plutôt une idée générale, mais... Non mais parce que je vais placer une phrase à moi par contre, dont je suis très fier. En fait, moi c'est plutôt sur le concept de dire, voilà, la console elle est pas puissante, elle est... Pas puissante, bon ça peut se discuter, mais elle est en retard technologique par rapport à ce qui se fait. Oh là là, sortir la Switch en 2016 quand même, c'est...
2017.
Oui, non mais c'était... Oui, d'accord, bon, ok. Non, mais...
Toi aussi, t'as un retard technologique.
Moi aussi, un retard, ouais.
Je suis un peu en retard. Bon, voilà, donc en 2017, sortir une Switch, comme ça,
retard technologique. Alors moi j'ai une petite analogie. C'est comme si tu disais, tu comparais une Tesla, la dernière Tesla, une voiture, à la dernière Ferrari. Tu dis, bah voilà, la dernière Tesla, elle va pas aussi vite que la dernière Ferrari, donc elle est en retard technologique par rapport à la dernière Ferrari. Donc c'est stupide de dire ça, parce que Tesla, ils font des véhicules électriques qui sont...
Et comme disait Cyrus tout à l'heure, la Nintendo Switch est blindée de technologies, mais de technologies différentes de la technologie qu'on aurait sur une PS4.
On parle pas en teraflops, en processeur graphique, 4K, HDR et compagnie.
Ouais, là on parle de vraie ingénierie, là.
Voilà. Donc non, effectivement, la Tesla ne va pas aussi vite que la Ferrari. Pourtant, j'aimerais avoir les deux, hein, y a pas de problème.
Ouais, surtout, groupé,
c'est juste que la technologie est utilisée différemment et que c'est pas les mêmes priorités, c'est tout.
Donc le tir groupé de la part de Chetan sur toutes les infos comme quoi technologiquement elle serait peu évoluée, ça c'est donc sur plusieurs médias. Donc Cyrus, il me semble que t'as des intox, c'était sur IGN France.
Enfin oui, là sur ce coup-là effectivement, donc moi j'ai regardé en fait les deux vidéos que IGN France a fait en ce qui concerne leur présence sur l'événement de test sur lequel on était aussi. Donc ils ont fait une vidéo à chaud où ils étaient juste dans l'entrée de l'espace de test, en fait au même endroit que nous. Et ensuite ils ont fait une deuxième vidéo à froid, alors c'est intitulé à froid, là ils sont à nouveau dans leur studio, donc c'est au sein de leur émission qui s'appelle iGeek Now. Et bon, dans cette vidéo il y a un certain nombre de choses pas très informées qui ont été dites, ça a été une épreuve d'écouter la totalité, mais c'est pas grave. Ce que j'ai retenu moi, c'est bien parce que c'est assez factuel. Donc c'est Sylvain Trinel, celui qui préside l'émission.
Ça balance les noms. Hein.
Sylvain Trinel, c'est ça.
On attendait que ça.
Son adresse, numéro de téléphone, ça c'est juste un truc.
Donc Sylvain, mes hommages. Je sais que tu nous entends. Alors, je cite. Elle est... Alors, il parle de la console. Hein. La console en mode portable, quand on l'a enlevée de son dock et qu'on décide d'y jouer en mode portable. Donc, je cite. « Elle est beaucoup plus lourde que le gamepad de la Wii U, et puis elle est beaucoup plus lourde qu'un iPad, par exemple l'iPad Air ou l'iPad 2. » Alors, donc je rappelle que c'est une vidéo de réaction à froid, c'est-à-dire que on a fait sa réaction à chaud, on est rentré chez soi, on a dormi, on est retourné au travail... Quand on est arrivé au travail, on a préparé une émission hein, qu'on fait à froid, donc on a eu le temps de réfléchir, de se renseigner notamment. Alors donc moi aussi je me suis renseigné avant de venir. Le gamepad de la Wii U, il pèse 491 grammes.
Donc juste google.fr, 30 secondes de recherche.
Une minute.
Une minute, allez. Une minute.
Parce qu'il y en avait certaines, c'était en unité de poids américaine,
okay.
j'ai dû convertir.
Ok, ouais, donc une minute.
C'est du travail.
Parce que c'est un américain. Voilà.
Il est vrai que j'en ai un dans les mains en ce moment même, mais c'est plutôt léger, ça va, c'est correct.
Donc ce gamepad que tu tiens dans tes mains fait 491 grammes. L'iPad Air 2 fait 437 grammes, donc il est un petit peu plus léger que le gamepad.
Il est léger.
L'iPad 2, comme il n'est pas R, il est un peu plus lourd. Lui, il fait 601 grammes.
Ah, donc faudrait que je rajoute ma Mi 3DS sur le gamepad.
Voilà. Donc là, on est à 491 pour le gamepad, 437 pour l'iPad R et 601 pour l'iPad 2. Maintenant,
combien,
une Switch.
Combien fait la Nintendo Switch?
Donc la Switch, la totale, hein, l'écran plus les deux Joy-Con sur le côté.
Vraiment, en mode nomade, on a la totale.
Configuration pour nos petites mains.
Eh bien, elle fait 398 grammes.
Donc, plus léger que même que le gamepad.
Plus léger que les trois. Donc, c'est génial en une seule phrase de dire trois choses fausses. Moi, je suis vraiment impressionné. Alors, donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé hein, à cet événement de test, comme à peu près tous les événements de test, les machines, elles sont accrochées à des dispositifs anti-vol. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas, surtout un Joy-Con, c'est tout petit. On pourrait le prendre, le mettre dans sa poche et puis on se tire avec. J'ai volé un Joy-Con. Encore une fois, le problème, c'est que c'est une réaction à froid. Et qu'on réfléchit à ça. On se dit, je l'ai trouvée lourde, mais elle était accrochée à quelque chose. Du coup, après, on se renseigne. On demande à son meilleur ami, avec deux O dans son nom. Et voilà, c'est fait. Mais je comprends pas quand ces gens-là sont des professionnels, ils sont pas comme nous. Hein. C'est leur métier, ils reçoivent un salaire pour faire ça.
Et malheureusement, on voit beaucoup ce genre de choses dans la presse française, voilà. Notamment.
Donc, vraiment, hein, avec les meilleurs sentiments du monde, mon cher Sylvain, juste tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux.
C'est pas grave, donc passons aux nouvelles des intox, parce qu'il y en a eu beaucoup, comme on vous dit. Je ne sais pas qui a vu cela, mais de jeux actu. Donc, Chetan.
Oui,
qu'as-tu vu?
Alors, moi, j'ai pareil, ils ont fait une vidéo qui était assez magique.
Alors, vous conseille juste pour rigoler, en fait.
Ouais, non, mais là c'est juste un bonus. J'ai même pas d'explication à faire. Ils ont quand même placé dans leur vidéo texto. Hein. La console n'est pas prévue pour être portable. Toujours en lien avec le poids. Non. Oui, on peut éventuellement discuter du poids sans donner de comparaison foireuse. On ne peut pas dire la console elle n'est pas prévue pour être portable. Nintendo, c'est exactement le concept de la console.
Bah oui, la console de salon. Du dock, bim, directement sur le portable.
Elle est portable.
Et comme on l'a dit, elle est hyper légère. Elle est hyper légère.
C'est pratiquement plus une console portable qu'une console de salon.
Mais même elle ferait 2 kilos, la console. Elle aurait été mal conçue, mais elle aurait été quand même conçue pour être portable.
C'est son principe. Dans ce cas-là, on peut dire que la Game Gear, c'est pas une console portable.
Voilà, c'est pareil. Dans le cahier des charges de la Switch, en gros, en gras, en titre, en premier, mode portable, mode salon. Je pense que c'était le premier truc à faire, tu vois.
Pas selon eux, hein, parce qu'à un autre moment, dans la même vidéo, il me semble que c'est eux qui disent aussi le mode portable. J'ai l'impression qu'ils avaient leurs deux manettes et qu'ils se sont dit, bon, on a nos deux manettes qui volent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah tu les attaches à la console et ça va marcher comme ça.
Effectivement, je m'en rappelle. Effectivement, pour eux, Nintendo aurait rajouté le mode portable au dernier moment comme ça.
Vraiment, la vidéo et les collecteurs.
Parce que j'ai du mal à le croire. Avant même la conférence, tout le concept qu'on avait vu, c'était justement basé sur le fait que la console soit transportable. Donc c'est clair que c'est pas un truc qui est sorti du four au dernier moment.
Et je pense que c'est un concept qui réfléchissait depuis avant la Wii U même, hein, quand ils sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait sur la suivante?
Bah ils y réfléchissaient. Déjà à l'époque de la GameCube, quand ils ont mis une poignée.
Exactement. Trêve de
la phrase du jour. Voilà.
Trêve de plaisanterie.
Voilà, on arrête les clashs.
On va passer. Alors, je sais pas. Maintenant, on va se clasher entre nous. Parce que là, on a
cette amitié. Voilà. On a critiqué pas mal de médias. Mais...
On fait aussi des erreurs.
Il peut y avoir des erreurs partout, mais on voulait remettre les choses au point.
Exactement.
C'est notre dernière, avant-dernière rubrique.
Dernière rubrique, grosse rubrique, le débat sur le online de la console. Et là, on n'est pas tout à fait d'accord, donc on va en parler. Donc ce débat sur le online de la console, qui est un peu un débat du futur, parce que c'est un sujet qui soulève beaucoup de discussions, mais surtout c'est un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Donc on va un peu se questionner sur ce à quoi s'attendre, à propos du online de la Switch. Et surtout sur ce qu'on sait pour l'instant et ce qu'on imagine pour le futur. Donc déjà, on va parler du online payant. C'est quand même une nouveauté sur la Switch. Nintendo, pour la première fois, propose une solution online payante. Donc Rash,
Moi, avant la conférence, c'est quelque chose que j'attendais. Moi, j'espérais qu'ils le rendent payant. Pourquoi? Mais... tout simplement parce que j'espérais qu'ils se calquent sur la concurrence et qu'il y ait des vrais serveurs. Parce que voilà, on était des gros joueurs de Splatoon, par exemple, sur Wii U. Et c'était vraiment pas une bonne expérience forcément en termes d'online, parce que les parties étaient hébergées chez un joueur ou chez l'autre. Et quand on avait une mauvaise connexion, ça faisait des parties imbuvables. Et du coup, avoir des vrais serveurs, un online payant qui permet de vrais serveurs de jeu, je pense que ça va complètement améliorer l'expérience. Donc ça, rien que pour ça, le online payant, c'est quelque chose que je voulais.
Alors, mais ça, on sait pas encore.
Voilà.
C'est des suppositions. Hein. Vu que c'est payant, j'imagine qu'il y aura des serveurs. C'est vrai que c'est pas annoncé, mais on l'espère.
Parce que techniquement parlant, je vais te rendre la parole sur ça, d'ailleurs, peut-être, vu que c'est toi qui te connais très bien. Mais la Wii U, en gros, il y avait une console qui accueillait toutes les autres.
C'est ça.
Alors, si on faisait des
pas tout à fait. En fait, t'avais quand même un serveur pour pouvoir faire le matchmaking.
Qui redirigeait,
en fait. Qui permet d'avoir la liste des joueurs, des amis, de permettre de connecter les consoles entre elles. Et ensuite, par contre, une fois que la partie démarrait, là, une des consoles devient le serveur. Tous les autres joueurs se connectent dessus. Donc si la personne qui fait serveur se situe à l'autre bout du monde, forcément il va y avoir du lag parce que tous les autres joueurs dépendent de sa connexion.
Ça va imputer sur tout le monde.
Ouais, tout le monde va souffrir du lag.
La qualité de connexion et des matchs de Smash Bros où on se suicide.
Exactement. Alors si t'as un serveur central, s'il y a un des joueurs qui lag, qui a une connexion en carton, ce sera son problème. C'est le seul qui va en souffrir. Voilà. Okay. C'est la différence qu'il y a en tout cas entre Nintendo et la concurrence actuellement.
Donc selon toute logique, on peut s'attendre à ce que les online payants servent à financer des serveurs qui permettront d'avoir une très bonne qualité.
On espère.
Je pense qu'on peut le supposer sans grand risque, personnellement. Oui.
J'espère pour eux, en tout cas. Parce que sinon, pas beaucoup de...
Sinon, c'est vraiment triste.
Ouais. Ouais, sinon, ce serait très triste.
Sinon, il n'y a pas grand monde qui va payer.
Là, on ne pourrait pas du tout soutenir Nintendo s'ils le font pas.
Voilà. Donc, une autre caractéristique qui a soulevé pas mal de questions, c'est les jeux gratuits. Parce que tous les autres constructeurs, en tout cas, fournissent tous les mois un certain nombre de jeux gratuits pour les abonnés payants. Voilà. Nintendo a annoncé quelques petites choses là-dessus, donc si Dante, si tu voulais nous en dire un peu plus.
Alors oui, Nintendo en fait prévoit chaque mois d'offrir pour l'instant, j'ai bien pour l'instant, un jeu NES ou un jeu Super NES. Mais il faut savoir que ce jeu en fait sera modifié et qu'il accueillera en fait un mode online. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu sera offert sur un seul mois. Par exemple, au mois de septembre, vous aurez Super Mario Kart. Vous pouvez jouer à Super Mario Kart en ligne pendant un mois. Ensuite, le mois suivant, le mois d'octobre, vous ne pourrez plus jouer du tout à ce jeu. Si vous voulez jouer, il faudra le payer. Donc passer sur la Virtual Console, on ne sait pas encore ce sera sur cette plateforme, pour continuer à jouer à ce jeu. Donc, le mois suivant, ce sera un nouveau jeu qui accueillera en fait tout ce pool en fait de joueurs. C'est un truc qu'on peut comprendre justement, parce que évidemment, chaque mois, on va pouvoir tester un nouveau jeu. Et si on sort par exemple sur une année, on aura 12 jeux jouables. C'est des jeux NES, des jeux Super NES. Déjà, je sais pas si beaucoup de personnes vont y jouer honnêtement. Si toutes ces personnes sont dispersées sur plusieurs jeux différents, on va un peu galérer à trouver d'autres joueurs. Donc, on comprend en fait cette volonté d'offrir le jeu sur un seul mois pour pouvoir justement garder cette base de joueurs. Mais on se pose la question de est-ce que Nintendo offrira également à côté d'autres jeux en fait que les joueurs pourront garder jusqu'à ce que leur abonnement en fait est toujours valable.
Ça, on sait pas.
Voilà, parce que ce qu'on dit, c'est ça, c'est un jeu qui reste gratuit qu'un mois et après on l'a plus, ça fait radin, quoi, clairement.
Totalement. Après, il faut voir également autre chose, c'est que justement le service va arriver en fait sur une console qui sera toute neuve. Donc forcément, au niveau des jeux qu'on pourra offrir sur la console, le mois de mars par exemple, j'imagine que Nintendo va pas nous offrir des jeux parce qu'il faut que les jeux se vendent quand même à côté.
C'est peut-être pour ça qu'ils ont annoncé que le online ne serait payant qu'à partir du mois de novembre, il me semble.
Exactement. Donc
c'est
là,
c'est l'automne. C'est vrai.
Avant l'automne, il n'y aura pas de jeux offerts.
Non, parce qu'il n'y aura pas d'abonnement.
Mensuellement.
Il faut que les gens sachent pourquoi ils vont payer après. Je pense qu'ils vont le faire avant.
Il y aura une période de test en fait. Je sais pas en fait si Nintendo voit ça comme une période de test. En fait, l'online sera gratuit pendant un moment et ensuite deviendra payant en fait plus tard. J'espère qu'ils tireront des bénéfices de cette période, qu'ils vont faire un retour par rapport aux joueurs, à ce qui a été dit et ce qu'ils vont mettre en place. En tout cas, j'espère qu'ils vont vraiment s'adapter à ce que font les autres constructeurs. Parce que si tu t'abonnes au PlayStation Plus, c'est super rentable. Si tu t'abonnes au Xbox Live, c'est super rentable. Oui. Maintenant, on attend Nintendo au tournant parce que c'est la première fois déjà qu'ils se lancent là-dedans. Et voilà, il en faut pour son argent. Et en plus, on n'a pas non plus de prix déterminé.
Pas encore.
Et qu'à moins que l'online soit 1 euro par mois, en l'état, c'est maigre leur offre.
Alors ouais, justement, un des autres, des autres services annoncés pour ce online, c'est le chat vocal. Ça soulève aussi d'énormes débats.
On en a beaucoup parlé.
On en a beaucoup parlé.
Qui est lié à
une application smartphone. Alors voilà, c'est pas que chat vocal en fait.
Mais ça en fait, pour l'instant, ils ont annoncé seulement cette spécificité, mais on sait pas si éventuellement la console pourrait faire tourner le chat vocal.
C'est
mais
pas
pour
clair.
L'instant, ils
c'est
nous ont dit.
Ils font presque exprès de choisir une formulation où ils vont dire il y aura une application qui permettra de faire ça.
Ouais,
ils ont... Mais à aucun moment ils disent ça sera le seul moyen de faire
exactement.
Ça.
Alors par contre, moi j'ai vu. J'ai vu des critiques là-dessus, ils disent « Oh là là, une application de smartphone sur le chat vocal, autant s'appeler, autant utiliser Skype, machin. » Alors, c'est vrai, sauf que c'est pas tout ce que fait l'application. Elle servirait aussi à gérer apparemment le matchmaking, mais surtout la gestion des lobbies de jeu, donc de pouvoir inviter ses amis, créer ses parties. Et
pour parler clairement et simplement, toutes les fonctions annexes liées à ton profil My Nintendo, enfin oui c'est ça, ouais. My Nintendo, seront incorporées dans une application qui elle gérera tout.
Mais surtout ce qu'on peut imaginer et ce que ne fait pas, ce que ne ferait pas une application TeamSpeak ou Skype ou quoi que ce soit, c'est que grâce à cette application, vu qu'elle sera liée au jeu, vu que c'est elle qui gérera la, ta partie en ligne, on peut très bien imaginer que tu pourras discuter avec des inconnus qui sont pas dans ta liste d'amis, qui sont dans ta partie actuellement.
Oui, alors. Ça, tu peux le faire chez la concurrence.
Oui, oui, non, mais.
Oui, sur la console.
Exactement. Non, mais je parle juste de la différence entre cette application potentielle et n'importe quelle application de Skype ou de chat vocal.
Ce serait une bonne chose et un intérêt, mais vu la politique de Nintendo depuis toujours sur la relation avec les gens que tu ne connais pas, j'ai de grands doutes
justement,
sur cette possibilité.
Justement, c'est une bonne, bonne remarque que tu soulèves, mais grâce à la vidéo dont parlait Dante du contrôle parental, on a vu que cette application de contrôle parental permettra de limiter certaines choses dans les jeux, dont la discussion libre avec tout le monde. Donc on a bien la preuve que, voilà, que Nintendo a ouvert son point de vue là-dessus et permettra de discuter librement avec des inconnus.
Donc il faudrait que je revoie cette vidéo avant de parler.
Exactement, voilà. Tu devrais la voir, en plus elle est très intéressante.
Tu devrais te renseigner.
Sinon on parlera de toi à la prochaine
on
section
pas
des Intox. Attention.
Voilà. Bonne soirée, à la prochaine.
Donc c'est pour ça. Alors maintenant, ce qui reste à savoir...
Et en fait, là où ça soulève aussi d'autres questions... C'est au niveau de la gestion des sources sonores. Est-ce que du coup, sur ton téléphone, tu pourras avoir et le chat vocal et le son du jeu, ou bien tu auras simplement le chat vocal et le son du jeu qui sort de la télé ? Parce que, je sais pas, je peux parler par exemple de Splatoon. Splatoon, si tu joues en fait sans le son du jeu, t'entends pas forcément les tirs ennemis et du coup, tu peux pas en fait localiser où sont tes adversaires. Et ça, en fait, c'est un point noir. Faut voir en fait comment ils vont essayer de contourner les choses ou bien de s'adapter par rapport à ça.
Je sais pas comment sera l'application, mais tu peux peut-être nous en dire plus.
Alors, sur l'application, malheureusement, j'en sais pas plus que vous.
Mais sur les potentiels.
Par contre, justement, quand on parlait de ça, du fait d'entendre le son du jeu ou pas, on sait pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire. Il y a dans le flou artistique dans lequel Nintendo nous met là-dessus, il y a, je sais pas si vous vous souvenez, quand je crois juste avant la conférence. En fait, il y a des fabricants d'accessoires tiers qui ont présenté un certain nombre d'accessoires qu'ils ont mis sur les sites d'achat, etc. Et parmi ces accessoires, il y a un casque avec micro-casque pour Nintendo Switch.
C'est intéressant.
Et il est difficile de penser que Nintendo les aurait laissé développer un tel casque s'ils n'ont pas prévu quelque chose dans, donc cette fois-ci, l'OS de la Switch, pour discuter avec un micro-casque. Enfin, ça me semble un petit peu curieux.
Tu pourrais utiliser ton micro-casque sur ton téléphone.
Oui, voilà. Mais dans ce cas, il n'est pas pour la Switch, c'est juste un micro-casque.
Ma question
ça,
est...
Après,
sur la Switch, c'est qu'un jack, c'est vrai.
Voilà, c'est ça.
Sur la
si
Wii
je
U,
me permettre,
hein.
c'est quand même des techniques marketing. Oui. J'ai déjà vu dans les magasins des écouteurs avec écrit compatible iPhone, compatible Android, compatible. Tu vois, de base c'est un jack, donc c'est compatible avec tout. Mais ils s'amusent à le marquer pour te dire ah bah j'ai un iPhone, bah je vais acheter celui-là, il est compatible iPhone.
Alors Dante, tu veux
voilà,
nous...
c'est pareil.
Flash news.
Oula,
le site de Nintendo a été mis à jour en fait avec les caractéristiques de la console qui est également l'écran. Et donc on voit l'apparition de prise casque et juste en dessous on voit la mention à connecter avec des écouteurs, des microphones ou des ensembles micro casques vendus dans le commerce.
Ah, ça c'est intéressant.
Et ça c'est tombé à l'instant.
On avait le site de Nintendo.fr, donc on peut pas faire plus officiel.
Ah alors là,
on avait vu qu'il y avait
le port jack.
On avait vu cette prise jack, mais
ce que je disais tout à l'heure, c'est que Nintendo, je sais pas vraiment pourquoi ils ont cette attitude. Enfin. Moi là, c'est vraiment quelque chose sur lequel, enfin, c'est quelque chose que je leur reproche. Déjà, ils ont décidé de dévoiler vraiment la console. Donc à cette conférence mi-janvier, c'est très tard hein, par rapport à la sortie de la console, enfin qui du coup se retrouve un mois et demi plus tard. Je trouve qu'ils dévoilent les choses vraiment très peu de temps avant la sortie effective de la console, et on dirait qu'ils s'amusent à encore en garder un petit peu sous le coude, à garder des cartes dans leurs manches, Et ça, c'est quelque chose que je peux pas comprendre, parce que entre temps, bah il y a cette publicité négative des gens qui s'attendent au pire. Nous ici dans la pièce, on est plutôt des fans de Nintendo, donc on aime bien rester optimiste. Dans le doute, on se dit bon, il va y avoir une bonne surprise quelque part un petit peu plus tard. Mais les gens qui sont pas aussi attachés à cette marque que nous.
Enfin
dans tous les cas, cette technique de communication est insensée.
C'est comme tu disais tout à l'heure. Échelonnage des sorties.
Oui, non, mais... enfin, là, ils autorisent les gens à se pourvoyer et à devenir pessimistes.
Effectivement.
Le problème, là, ce qu'on ressent, même nous, c'est qu'ils ont fait un petit pas, mais ils sont encore dans un entre-deux. En fait, ils n'osent pas franchir le cap et se caler sur la concurrence. Et ça nous fait peur, parce que faire un petit pas, ce n'est pas suffisant. On a envie qu'ils fassent le grand saut. Pour qu'on ait un online, même expérience online qu'on peut avoir de qualité chez la concurrence.
Je pense que comme a dit Cyrus, on n'a pas toutes les infos, Nintendo les garde.
C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on voit ce que ça donne au final. Et avec tout, en tout cas, avec ce qu'ils ont annoncé là, en modifiant, mais en apportant quelques compléments, tu peux avoir une qualité d'expérience qui est la même que sur les autres, qui est équivalente en tout cas à celle des autres.
Il y a du potentiel.
Ils en ont dit tellement peu que ça laisse beaucoup de place au pessimisme. Aussi de la place à l'optimisme. Hein. On peut très bien se dire.
On peut mettre Paris en bout.
Exactement.
Moi, bon, je pense qu'on peut boucler.
On en saura plus demain.
Je sais pas quand est-ce qu'on en saura plus, mais en tout cas, on arrive à la fin de ce podcast qui était chargé en informations. On va faire un petit tour de table pour finir. Pour parler un peu des attentes de chacun au niveau des jeux, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé de jeux dans ce podcast, qui était voulu. Caduceus, tu vas commencer. Quel est ton jeu le plus attendu parmi ceux qui sont annoncés, et quel est le jeu que tu aimerais avoir sur Switch, que Nintendo n'aurait pas annoncé?
Alors, parmi les jeux annoncés, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Simplement, j'ai adoré Mario Kart 8 et là je pourrais y jouer dans les transports. Ok, je vais acheter, c'est pas grave. Je jouerai à 8 ensemble,
Paris,
tout ça, ça va être top.
Ok, et ton jeu de rêve?
Celui que j'aimerais voir, c'est le vrai prochain Zelda Scroll, le 6. Il y a le 5 qui ressort cette année, donc j'allais adorer le jeu. Je vais pas me le racheter. Donc j'attends que vraiment bien
sûr. Et on peut espérer
le prochain.
On peut espérer qu'il y ait la suite.
Qui sort, vraiment.
Ça me paraît super, comme rêve en tout cas. Cyrus? Quel est ton jeu de prédilection sur Switch? Qu'est-ce que t'attends le plus?
Alors moi je suis vraiment pas original du tout, c'est Zelda Breath of the Wild. Les Zelda, c'est ma série préférée. Ce jeu-là a de grandes chances d'aller très très haut dans le classement des meilleurs Zelda, donc c'est tout bête, je le veux.
C'est un jeu de rêve, un fantasme particulier sur Switch?
Moi en fait c'est... continuité de Xenoblade Chronicles 2, je voudrais Xenoblade Chronicles X2.
D'accord.
Tout simplement.
D'accord, très bien. On sait que tu aimes cette série. Chetan.
Mon jeu de prédilection, c'est Xenoblade 2. Effectivement, j'attends beaucoup. Et mon rêve absolu, ça serait un nouveau Star Fox Adventure.
Moi aussi, j'aimerais bien. Vargas. Alors toi, dis-nous, c'est quoi ton jeu préféré?
C'est un jeu sur lequel on n'a pas eu beaucoup d'infos, c'est le Fire Emblem, le futur, pas le Warriors, même si j'attends aussi beaucoup le Warriors parce que j'ai aimé le Warriors, mais le Fire Emblem classique qui va sortir.
De la série principale.
De la série principale, parce que c'est une série qui est qualitative dans tous ses épisodes, même les moins bien sont quand même de très bons jeux, et donc celui-là, à mon avis, va être très bien.
Super, et ton rêve?
Mon rêve, on reste un peu dans l'univers RPG tactique, c'est pourquoi pas un Final Fantasy Tactics 2, hein, c'était sorti sur la concurrence, mais après il y a eu Final Fantasy Tactics Advance, donc il y a moyen que ça revienne, on sait jamais.
Alors là-dessus je te rejoins.
On parle de rêve, hein, donc...
Je te rejoins à 100 000, 10 000 %
On sait tout ce qui est mytho, ouais. Et qu'il attend en fait un Metroid 2D, voilà. Allez.
Et Dante à toi, de rêve, voilà.
Alors le jeu que j'attends le plus, c'est Super Mario Odyssey. Tout simplement parce que c'est le retour des Mario à l'ancienne, les premiers Mario qu'on a découverts en 3D, à savoir des grosses zones ouvertes qu'on pourra explorer librement. On a plein de mondes différents qui ont l'air tout simplement sublimes. Et le jeu que j'attends le plus, hypothétique, c'est Itadaki Street, qui sort sur PS4 et PS4.
Course à la fortune en français sur Wii.
Course à la fortune pour les francophones.
On sait qu'il y a une version Vita, une version PS4, et je trouve que c'est typiquement le genre de jeu qui serait idéal pour la Nintendo Switch. C'est des jeux multijoueurs super sympas avec les personnages de Dragon Quest et Final Fantasy pour cet épisode. J'aimerais vraiment le voir en fait
sur Nintendo Nomad, Switch. Etc. sur la Switch, ce serait super. Et moi, pour clore le bal, je vais parler de Splatoon 2, parce que Splatoon, c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps sur la Wii. C'est vraiment une découverte de dingue.
Moi aussi.
Voilà, et Sirius aussi. Vraiment, c'est quelque chose, et on a tous joué d'ailleurs comme des fous, donc ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel de pouvoir y jouer en plus en équipe, ensemble dans la même pièce. J'ai un coup de cœur, comme dont j'ai envie de parler très rapidement, c'est Super Bomberman Air. Je suis un grand, grand fan de cette série. Le jeu paye pas de mine, parce que voilà, on se dit c'est basique. En termes de graphisme, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'esprit, voilà, des vieux Bomberman qui me touche en tout cas dans ma sensibilité de gamer. Et mon rêve, voilà, pour terminer, ce serait depuis longtemps, je l'espère, c'est un Mario Party Maker, moi, une compile de Mario Party à l'ancienne. Parce que les derniers, voilà, ne me satisfont pas du tout, ni moi ni mes collègues.
Pas du tout.
Pas du tout. Voilà.
Pas après, du tout.
C'est un sujet à débat, mais voilà, un Mario Party Maker, c'est vraiment un rêve ultime pour moi. Voilà.
Un Mario Party ultime, voilà, du bonheur.
Après, si on doit parler de coup de cœur, il y a Sniper Clips quand même.
Ouais, il faut pas oublier Sniper Clips. Attention,
je pense que on en parle en général.
Si on peut parler de coup de cœur, on peut parler d'armes aussi. Chacun a son
coup de cœur ici. On a déjà parlé d'armes. Par contre, Sniper Clips, on en a pas parlé de tout le podcast, et franchement, ce jeu.
Ça risque pour moi d'être un achat Day One en plus. Hein,
c'est une très bonne
vraiment
surprise.
Très très bon. Hein.
Ouais. Bon, ben en tout cas, c'est ce qui va finir notre podcast. Alors j'ai une petite bonus, la petite tour de table bonus. Est-ce que vous avez précommandé la console ou pas? Oui ou non?
Oui.
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 Évidemment.
Pas encore.
Avec Adiceus, voilà.
Merci de nous avoir.
Ça va venir.
Merci de nous avoir écoutés et on espère que ça vous a plu pour cette première expérience de podcast.
Voilà, c'est vraiment la première, donc on sera bien la prochaine fois.
Voilà. Laisse un commentaire, partage. Voilà.
Deviens fan sur Facebook surtout.
Et si t'es toujours là à la fin, merci.
À la prochaine.